France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le théâtre, c'est le lieu où le crime doit s'exprimer. Le théâtre, c'est le lieu qui questionne l'impossible citoyen. Donc évidemment, au théâtre, pour dénoncer le crime, on montre le crime.
Est-ce que vraiment vous croyez que je commets un outrage raciste en maquillant mes comédiennes blanches de couleur foncée pour interpréter les Égyptiennes ou les Égyptiens dans la pièce d'Eschyle?
Pour moi, le lieu de la représentation, la scène, c'est aussi le lieu des transgressions.
Le 25 mars dernier, trois associations de lutte contre la négrophobie bloquaient l'accès à la représentation des suppliantes d'Eschyle à la Sorbonne. Les Danaïdes, imaginées par le metteur en scène Philippe Brunet, avaient le visage grimé et portaient des masques cuivrés, un blackface inacceptable pour les associations. Quelques jours plus tard, des centaines d'universitaires et de personnalités de la culture signaient, avec Ariane Mnouchkine, une tribune dénonçant ce boycott. Aujourd'hui, les suppliantes, écrivait-il, Exhibit B il y a quelques années, mais aussi, souvenons-nous, Romeo Castellucci accusé de blasphème par des activistes catholiques intégristes pour sa pièce sur le concept de visage du Fils de Dieu. La logique de censure intégriste et identitaire est la même, à quand les autodafés ? Depuis, la pièce a été rejouée, avec cette fois des masques dorés, mais la polémique a mis en évidence des incompréhensions de fond sur la mission même du théâtre. Doit-il, pour s'adapter aux évolutions de la société, se faire plus prudent aujourd'hui, être attentif à ne pas choquer et s'efforcer de représenter toutes les communautés ? Doit-il au contraire s'imposer comme le lieu de toutes les libertés, de toutes les subversions ? D'ailleurs, dans quelle mesure la transgression est-elle encore possible aujourd'hui ? Qu'il s'agisse de textes, de corps et de décors, n'a-t-on pas déjà tout vu et tout entendu sur scène ? Théâtre, à la recherche de la transgression perdue, c'est un reportage signé Cécile de Carvaz-Doué. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Sylvie Chalet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et anthropologue des représentations, professeure à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'image du noir dans la culture occidentale, entre autres. Et bonjour Jean-Robert Charrier.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris et nouveau directeur artistique du Festival de Théâtre d'Anjou. Nous allons commencer par écouter ensemble la première partie du reportage de Cécile de Carvaz-Doué. Cécile, la pièce d'Eschyle mise en scène par Philippe Brunet n'est pas la seule à avoir fait polémique ces dernières années. Le théâtre semble être une victime collatérale de crispations sociétales qu'il dépasse. Réflexion qui vous a amené à rencontrer cette troupe attaquée par les associations anti-négrophobie.
Oui, passé le tumulte médiatique du printemps, j'ai voulu savoir ce qui restait de cette polémique et comment finalement le théâtre était-il ou non une chambre d'écho des crises que traverse notre société. J'ai donc commencé par aller à la rencontre de la troupe amateur de théâtre antique de l'association Démodocos qui va se produire cet été au festival de Vaison-la-Romaine et qui est en pleine répétition.
Tu coi mane catenorisas.
Je m'appelle Yannis Cléré et je suis actuellement comédien de l'association Démodocos, donc une association de théâtre antique. Comme je pense la majorité des comédiens, on était sous le choc, on ne comprenait pas, pour nous c'était vraiment abstrait. Même à l'heure actuelle, moi je n'arrive pas à me représenter que ça peut être aussi douloureux de voir une personne blanche avec un maquillage sombre sur elle, si ce n'est pas dans une logique de blackface, donc vraiment dans une logique parodique.
Comment vous avez compris ce qui s'est passé là au printemps ?
En fait, j'ai découvert une frange, une mentalité dont je n'avais pas conscience avant cette polémique-là concernant le ressenti que peuvent avoir certaines personnes vis-à-vis du théâtre, des arts et de la question de la représentativité des communautés sur scène. La seule chose en fait qui m'a fait prendre conscience à titre personnel que le spectacle pouvait vraiment causer de la peine à certaines personnes de cette communauté, c'était le soir dans la représentation, une des manifestantes qui était présente. Une fois qu'ils avaient gagné, en fait, elle a posté, peu après être partie, en rentrant chez elle, sur le chemin du retour, apparemment, un tweet où elle disait que malgré la victoire, en fait, elle comprenait pas, mais elle avait envie de pleurer, qu'elle se sentait pas satisfaite de l'action qu'elle avait menée ce soir-là. Et ça, pour moi, c'était révélateur, quand même, d'une grande frustration des associations et des personnes noires vis-à-vis, à mon avis, de la société. Quelque chose qu'on peut pas vraiment comprendre. Une forme de frustration, peut-être, qu'il n'y a pas de réponse au niveau politique des revendications portées par les associations qui se répercutent, pour moi, après, vers le milieu des arts et de la culture. On va dire un milieu un peu plus proche, un peu plus local.
Justement,
justement, la pièce des suppliantes qui se passe bien avant l'époque de la démocratie à Athènes, en fait, explique l'arrivée de ces populations à la peau sombre dans la cité. C'est pour ça qu'en fait, c'est une pièce politique, aussi à l'époque d'Eschyle, parce qu'elle explique qu'il y a des gens différents qui n'ont pas été nourris par les mêmes fleuves, mais qui sont égaux, malgré leur couleur de peau. Donc du coup, dans les suppliantes, c'est aussi ça qui pose question. C'est savoir comment est-ce qu'on représente ça aujourd'hui dans une cité où certains vont dire que la couleur de peau n'existe pas, qu'on ne voit pas la couleur, tandis que d'autres vont se retrouver opprimés, jugés pour leur faciès, vont être contrôlés par la police et tout ça. Comment est-ce qu'on peut représenter ça de
mais
nos jours ?
C'est vrai, bon Dieu, et même qu'à présent, tout Athénien rentre chez lui, engueule et sonde ses esclaves.
Dans deux petites salles sur le campus de Jussieu, à Paris, une dizaine d'étudiants et d'amateurs répètent Les Grenouilles, une comédie d'Aristophane sur la disparition des vrais poètes. Comme depuis plus de 20 ans, dans chaque spectacle de cette association Démodocos, l'idée est la restitution du théâtre antique, avec son rythme, ses chants, ses danses. Trois mois après l'affaire des suppliantes, le metteur en scène Philippe Brunet, helléniste et professeur de grec à l'université de Rouen, est toujours aussi engagé. Surtout, il ne comprend pas le procès qui lui a été fait.
Écoutez, moi, j'ai des amis en Afrique, des amis noirs qui n'ont pas compris. Tel griot du Cameroun m'écrit « Mais qu'est-ce qui se passe à la Sorbonne ? C'est pas possible. » Je dis « Non, mais sincèrement, je lui écris. Donc, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vraiment vous croyez que je commets un outrage raciste en maquillant mes comédiennes blanches de couleur foncée pour interpréter les Égyptiennes ou les Égyptiens dans la pièce d'Eschyle ? » Donc, il y aurait vraiment un problème d'importation d'une problématique, je sais pas, canadienne, américaine, en France. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que si chaque groupe culturel demande au nom, par exemple, d'un passé de victime à être respecté, donc, à, par exemple, je ne sais pas, qu'il ne faut pas jouer les Indiens d'Amérique si on n'est pas Indien d'Amérique soi-même, il ne faut pas qu'Othello soit joué par quelqu'un d'autre qu'un noir, c'est un peu ridicule. On sait bien que la vraie libération et l'égalité, c'est de faire jouer aux noirs n'importe quel rôle, et des rôles de blancs, et pas seulement les assigner à des rôles de noirs. Alors c'est vrai qu'il est plus dominant pour nous, plus facile de jouer en tant que blanc des rôles de noirs, mais ça dépend des effectifs. Dans les Perses, j'ai une comédienne noire, elle est sénégalaise, elle joue avec un masque blanc. Sa peau et les épaules sont nues, on ne cache pas sa négritude, si je peux employer ce terme. Et la beauté noire est magnifique. Et maquiller des blancs en noir, c'est bizarre, c'est très étrange. Ça n'est, pour moi en tout cas, j'aimerais être compris aussi. En aucune façon un outrage. Le théâtre, c'est vraiment le lieu où tout est possible. C'est-à-dire qu'un gros va jouer le rôle d'un maigre, et c'est ça qui est intéressant. Vous mettez un masque, et vous ne savez pas où vous emmène le masque. Quel que soit le personnage, quel que soit le sexe, le genre, je joue Antigone, je ne vais pas m'amuser à me faire une voix de fille. Voilà, je ne me suis pas fait des faux seins, c'est pas tellement ça, vous voyez. On est à la recherche toujours du personnage, on tente de faire exister quelque chose qui n'est pas dans la réalité. Ça n'est pas naturaliste, le théâtre.
Mais c'est dans les petits détails que le diable se cache. C'est ainsi que l'une des associations venues empêcher la tenue de la pièce d'Eschyle le 25 mars dernier explique aujourd'hui son geste et sa campagne contre tous les types de blackface dans l'art. La Ligue de défense noire africaine, qui veut lutter contre la négrophobie et le néocolonialisme, rassemblerait 5000 personnes. Son porte-parole s'appelle Egunchi Béanzin. Il a accepté de me rencontrer.
Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, c'est contre nous. Nous, on aurait bien aimé que ce monsieur discute avec nous ou organise, je ne sais pas, une espèce de conférence où on aurait pu être là, échanger, expliquer ce que nous lui reprochons. On a vu qu'ils ont rejoué sans le blackface dedans. On n'a rien dit. C'est tout ce qu'on demandait. Comme quoi, c'est possible de le faire. Et vous savez que la pièce d'Eschyle, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, ça a été déjà joué sans le blackface. Nous, on a vu plusieurs vidéos. Donc, ça veut dire que c'est faisable. Vous avez vu le masque néo-blackface? Non, je ne suis pas comme ça. On ne peut pas me représenter comme ça. Parce que ça envoie l'image des clichés qui sont véhiculés encore en 2019, qui nous pénalisent, nous, dans notre vie de tous les jours.
Mais concrètement, au théâtre, dans l'art, vous aimeriez quoi ?
Qu'il y ait une représentativité. C'est-à-dire, si c'est des rôles qui parlent des Africains, il faut prendre des Africains pour les jouer. Aujourd'hui, il y a plein de comédiennes, de comédiens d'origine africaine qui ont du talent, qui ne trouvent pas forcément des rôles. Mais par contre, pour prendre des comédiens ou comédiens noirs, pour les mettre dans des séries télé avec des rôles qui caricaturent encore une fois, qui envoient des clichés sur les noirs, là on sait le faire. Nous on appelle ça excusez-nous de l'expression, mais les nègres de service, qui sourient tout le temps, qui fait le con, qui fait limite l'attardé. Non, peut-être il faut que ces metteurs en scène et, ou producteurs, je ne sais pas, fassent une mise à jour de leur logiciel pour se dire que ce qui se faisait en 1940 ou 1990 ne peut plus se faire en 2019. Et c'est à force de lancer le débat qu'on finira par traiter le sujet. Parce que si à chaque fois on se dit « oui, mais on ne doit pas calculer, prenons-en à l'humour bah, », les blagues de Michel Leb, par exemple, on a vu ce que ça a créé sur notre communauté, sur les Africains. Ça ne passe pas. Peut-être sur nos parents, eux ne disaient rien. Mais nous, on a eu la chance de peut-être étudier, de connaître comment fonctionne le système. Donc on a le droit quand même de se défendre. Et c'est pour ça que nous disons que le droit à la liberté d'expression et de la création doit être limité au devoir du respect de l'autre par deux injonctions. Tu ne dois pas tuer, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc dans le théâtre, ça doit être comme ça en fait.
Ça veut dire qu'on fait du théâtre pour plaire à des communautés alors ?
Pas forcément. Après, je peux aussi vous dire, il serait peut-être temps de sortir de ce totalitarisme, universalisme aussi peut-être. Il faut peut-être aussi laisser maintenant les gens vivre comme ils ont envie de vivre. Mais le problème, c'est qu'on demande toujours aux minorités de s'intégrer, de faire ça. En fait, c'est comme c'est du totalitarisme en vrai.
Le fléau qui réplique avec ses casques.
Pour le plus haut, pour le plus haut.
Aucune discussion directe n'a eu lieu entre les membres de l'association de théâtre et ceux des associations anti-négrophobie, chacun se renvoyant la responsabilité de ce débat impossible. Les points de vue se sont donc exprimés à sens unique, via des tribunes interposées. L'une d'entre elles était portée par Ariane Mnouchkine. Elle a rassemblé près de 300 personnalités de la culture, dont le metteur en scène Jean-Michel Rabeu.
Le théâtre, c'est le lieu où le crime doit s'exprimer. Le théâtre, c'est le lieu qui questionne l'impossible citoyen. Donc évidemment, au théâtre, pour dénoncer le crime, on montre le crime. C'est les Grecs qui ont inventé ça il y a 2000 ans. Pour que le sang ne coule pas dans la cité, on fait couler le sang sur le plateau. Donc si on peut pas faire couler le sang d'un noir sur le plateau, parce que ça serait raciste de faire couler le sang d'un noir, il y a plus de théâtre. Le théâtre, ça fait vivre le crime. Ça n'en parle pas. Ça fait vivre dans le spectateur. Qu'est-ce qui se passe dans le spectateur quand il y a un noir qui est derrière des barreaux et qu'on maltraite? Il se passe quoi en toi, spectateur? Tu le prends ton pied? Ou au contraire, ça te dégoûte? Ça te fait penser? C'est ça le théâtre. Donc, faut pouvoir montrer le crime.
Eux, ils disent, ok, montrons le crime, mais avec des acteurs noirs.
Évidemment, si on fait jouer des noirs par des noirs exclusivement, il faut faire jouer les PD par les PD exclusivement, les criminels par les criminels, ça veut dire quoi? Il peut y avoir aussi une raison à ce que justement l'acteur soit peint. Ça peut être une raison qui n'est pas une raison raciste. Moi, j'ai fait un Marivaux où un des personnages était peint. Parce que, au 17e, c'était une décoration raciste, évidemment. Je le sais, je l'ai fait pour ça, pour dénoncer ça. On me dit, vous êtes raciste inconsciemment, mais ça a pas, non?
Depuis Exhibit B, l'exposition de l'artiste sud-africain Brett Bailey, qui avait fait scandale parce qu'il représentait des noirs en cage, l'histoire de l'esclavage et la question noire ne cessent de faire polémique. Et l'art lyrique ne fait pas exception.
Comme vous le disiez avec l'exemple du Verdi à l'Opéra Bastille, il y avait des chanteurs à l'Académie lyrique et une chanteuse notamment noire qui aurait pu faire ce petit rôle d'Anina dans la Traviata et finalement on lui a préféré une chanteuse blanche qu'on a grimée. Ça c'était il n'y a pas très très longtemps.
Ça vous choque ça ?
Aujourd'hui oui, alors que des artistes lyriques noirs francophones, il y en a. Il y en a plus que ce qu'on croit.
Marie-Claude Botius a créé un collectif d'artistes afro-caribéens qui monte des spectacles pour promouvoir ces artistes noirs francophones. Elle se réjouit de voir que la question noire est de plus en plus présente dans la culture. À l'instar de l'exposition « Modèle noir » au Musée d'Orsay, le cinéma, l'édition s'emparent de ce thème. Parce qu'elle est métisse, café au lait comme elle le dit, elle vient justement d'être recrutée pour jouer dans un opéra consacré à l'histoire de l'esclavage et intitulé « Le Code noir ».
Quand on voit le contexte actuel où justement on commence à parler de cette histoire de l'esclavage, on commence à lever le voile, on commence à montrer la complexité de cette période. Endosser le rôle d'une esclave, alors que je sais que dans mon passé, forcément, il y en a eu, pour moi, c'est un grand honneur, quoi. Forcément, de monter sur scène et d'endosser ce rôle, c'est historique, quoi. Je trouve ça vraiment magique de pouvoir faire partie de tous ceux qui font ouvrir les yeux aux Français en disant bah voilà, voilà ce qui s'est passé en réalité. Il y a des pans d'histoire qui ont été cachés ou camouflés ou partiellement dits. Et ben maintenant, on commence à vraiment lever le voile sur ces zones. Ce qu'il y a de bien avec cet opéra comique, c'est qu'il est très justement réaliste de l'époque, de montrer la complexité des relations qu'il y avait entre maîtres et esclaves, les différents types d'esclaves qu'il y avait, les différents types de maîtres qu'il y avait, parce que ça fait la réalité du pays d'aujourd'hui.
C'est-à-dire
quand moi j'étais enfant et que j'ouvrais un livre d'histoire, j'apprenais nos ancêtres les Gaulois. Enfin, la France, c'est pas uniquement une France blanche, une France... Voilà, la France, elle est multiple. Lorsqu'on n'a pas le courage de pouvoir voir son histoire en face, avec tous ses aspects... Comment on peut construire un avenir serein ?
Visionnaire, Le Code Noir est un opéra comique de 1842 composé par Louis Clapisson, une star de l'époque aujourd'hui tombée dans l'oubli. Le succès de cet opéra a abouti à l'abolition de l'esclavage en 1848, d'où l'importance de l'exhumer, rappelle celui qui est à l'origine du projet d'aujourd'hui, le baryton, claveciniste et chef d'orchestre Jérôme Correas, avec son ensemble Les Paladins.
Pour moi, tout de suite s'est imposée l'idée que, enfin, il était possible de faire un opéra sur un thème actuel. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de Dieu, on ne parle plus de héros mythologiques, mais on parle de quelque chose, d'une réalité avec laquelle on est toujours en prise d'une certaine manière. L'idée qu'on soit encore plus près de quelque chose de terriblement brûlant m'a tout de suite beaucoup intéressé. Alors il y a plein de thèmes très intéressants. Il y a bien évidemment le thème de la traite des Noirs et de l'esclavage. Ça m'a fait aussi m'intéresser au sort des jeunes femmes blanches dans ces pays qui étaient gardées comme des trésors parce qu'il ne fallait absolument pas qu'elles puissent évidemment avoir des enfants par accident avec des Noirs, vous imaginez. Il y a aussi le thème du bon maître et du mauvais maître. Qu'est-ce que c'est qu'un bon maître? Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais maître? Je pense qu'on voit ça dans des entreprises encore aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est pas de l'esclavage, mais en tant qu'historien, je n'oublie jamais qu'il faut essayer de ne pas juger. C'est ce qui est très difficile aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle, nous avons tendance à juger parce qu'on est révulsé par du vocabulaire, par des phrases, par des situations, etc. Ne serait-ce que nègre ou négresse. Aujourd'hui, évidemment, ça nous choque. Et au XIXe siècle, ça ne choquait pas. Donc, très difficile d'arriver à ne pas juger ces gens à l'époque.
Quand vous parlez du projet, en général, vous êtes bien accueillis. Vous pensez que c'est un projet qui va pouvoir être programmé partout ?
C'est un projet qui, dans un premier temps, suscite l'intérêt. Et puis, évidemment, il y a le thème qui peut faire peur aux programmateurs. Parce que, évidemment, il faut savoir comment ça va être traité. Est-ce que ça va être traité d'une façon historique, d'une façon revancharde, d'une façon exotique? Il y a plein d'écueils à éviter. Alors, pour moi, le premier écueil, évidemment, c'est de faire dans l'exotisme qui nous emmène, qui nous fait rêver, qui nous emmène en voyage avec les tigres qui rugissent au fond d'une forêt luxuriante. Vous voyez, ça c'est une chose que j'aimerais bien pouvoir éviter. Ensuite, le côté revanchard, c'est de dire les blancs sont des salauds, les noirs sont des victimes. Je pense qu'il faut absolument dépasser ce stade-là. C'est difficile, mais on a des situations humaines qui parlent d'elles-mêmes. Quand on va voir la façon dont est traité, par exemple, le personnage de Zamba, qui, bien que libre, est métisse, à qui le gouverneur lui dit « Toi, tu t'assois pas à notre table pour dîner, mais tu es à une petite table, et au lieu de partager le repas qui est servi, on lui sert du gâteau de riz. » Et effectivement, c'est en ça que l'œuvre est vraiment bien faite, c'est que ça nous présente des situations quand même qui nous mettent dans un certain état.
Justement, qu'est-ce que vous espérez que le public en retire ?
Alors, d'abord, le fait d'avoir découvert une musique qui nous transporte, mais je voudrais que les gens se disent qu'on est quand même peut-être dans un processus humain qui, avec des pas en arrière, des pas en avant, peut-être petit à petit avance un peu.
C'est transgressif, ça ?
Très, parce que ça a le gros défaut de véhiculer de l'espoir, c'est terrible.
Extrait du Code Noir de Louis Clapisson sur un livret d'Eugène Scribe, c'est Benjamin Laurent, compositeur et chef de chant, qui l'a enregistré pour l'émission Grand Reportage. Nos invités aujourd'hui, Jean-Robert Charrier, directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin, et Sylvie Chalet, historienne des arts du spectacle. Sylvie Chalet, est-ce que le théâtre doit devenir politiquement correct ?
Le théâtre ne peut pas être politiquement correct. Le théâtre est d'abord politique, par la force des choses. Et la notion de politiquement correct, c'est une notion récente, qui vient finalement aussi des cultures américaines, en tout cas d'Amérique du Nord.
Et alors là, quand vous entendez les positions très tranchées des uns et des autres, vous avez l'impression qu'il y a, enfin, on a vraiment l'impression là de deux mondes qui ont du mal à se comprendre.
Vous recentrez la question de la transgression sur l'enjeu.
Alors dans un premier temps, puisqu'on aura ensuite une deuxième partie de reportage.
L'enjeu qu'a représenté la représentation justement de ce spectacle Les Suppliantes d'Eschyle, avec donc le choix de barbouiller les comédiennes dans un premier temps de noir, et surtout aussi de leur mettre des perruques laineuses noires sur la tête pour convoquer une altérité africaine. C'est de quelle couleur un noir ? Bon, c'est Genet qui disait ça, c'est de quelle couleur un noir ? On ne peut pas mélanger, en fait, la question de la représentation des minorités, par exemple, donc LGBT, il a été question de cela dans la phrase notamment de Jean-Michel Rabeu, ça veut dire que donc un Indien doit être joué par un Indien, un homosexuel par un homosexuel. La question du noir est autre chose. D'abord parce que c'est une fabrication. C'est quelque chose qui est lié au regard que l'on applique sur l'autre et que l'on enferme. Les Noirs ont fini par se penser noirs parce qu'on les a regardés comme noirs. Une femme ou un homosexuel ne se pense pas homosexuel ou femme parce qu'on a décidé pour lui ou pour elle que c'était son identité. C'est à cet endroit-là que tout change. Et par ailleurs, la question de la représentation justement de l'homme noir ou de la femme noire par un simple maquillage... Et non seulement quelque chose donc qui est donc une artificialité, mais qui renvoie justement encore davantage à cette façon d'enfermer l'autre dans une surface, dans quelque chose qui relève de l'étrangeté et de l'altérité que l'on envisage par rapport à soi. Qu'est-ce que c'est que des perruques laineuses sur une tête ? C'est parce qu'on regarde le noir de cette manière. Alors du coup, beaucoup de Noirs dans l'histoire justement des violences qui ont été faites à la communauté ont tenté d'effacer cette dimension-là, de se lisser les cheveux, d'apparaître moins foncé, etc.
Cécile de Carvaz-Doué.
Là, on est dans un tournant en fait sur justement la représentation des Noirs dans notre culture, mais se pose quand même la question, et c'était évoqué dans le reportage, est-ce qu'on prend pas le risque finalement que la culture devienne communautaire, identitaire, et de réduire le champ de la culture en allant dans le sens de ce que veut par exemple la Ligue de défense noire africaine, qui est de dire quand on joue un noir, on prend un noir.
En fait, il ne faut pas ramener la question du théâtre à la notion de communauté. Il ne s'agit pas d'une communauté, les pièces de théâtre ne se jouent pas pour une communauté blanche ou une communauté noire ou une communauté asiatique. Le théâtre doit se jouer d'abord pour un public qui est le public. Alors a priori, il s'agit de la France, si on veut regarder dans un premier temps, le public, quel que soit son âge, quelles que soient ses origines, c'est le public, quel que soit effectivement aussi son niveau social, d'abord il y a cet enjeu-là. Or, un des soucis que vivent aujourd'hui effectivement les jeunes afrodescendants, et donc ils ne se vivent d'ailleurs pas forcément noirs, africains ou antillais, il y a beaucoup de métis qui même parfois ne connaissent pas forcément leurs ascendances. Ce qui se joue, c'est que on continue de les réifier, de les ramener en fait à un objet d'altérité, alors même que on ne les calcule plus dans la nation française. Et donc on ne les calcule pas dans la façon de penser le théâtre contemporain.
Jean-Robert Charrier, quand vous entendez les propos de Sylvie Chalet, est-ce que ça fait écho à quelque chose que vous ressentez vous aussi, ou est-ce que vous redoutez des freins à la liberté d'expression ? Vous, comment est-ce que vous percevez les choses ?
Moi, ce que je perçois surtout en entendant le reportage, c'est la grande question de savoir pourquoi, comment ces associations qui réussissent à empêcher ces représentations des suppliantes, comment notre société a fait que ils ont vécu leur identité aussi mal que ils ont perçu ce travail de Philippe Brunet comme une agression, alors que Évidemment, j'ai l'impression objectivement, vu de l'extérieur, c'est tout sauf une agression, c'est tout sauf un acte raciste, ce qu'il fait. Et pourquoi ces associations en arrivent là? Pourquoi, pour recentrer sur le théâtre, pourquoi le théâtre ne réussit pas à intéresser ces personnes noires, mais de toutes les minorités. Et évidemment, quand je regarde le paysage théâtral français actuel, quand je regarde à quel point le répertoire est eurocentré, et vraiment toujours sur la culture française ou européenne, je me dis que c'est pas une question de classe sociale, que c'est pas une question d'origine, que c'est juste une question de ressemblance et d'être attiré par des choses qui nous concernent.
Et une partie importante de la problématique est sans doute là, Cécile de Caravasdoué.
Donc effectivement, il y a un problème de représentativité, mais certains pourraient arguer aussi que finalement, à vouloir sans cesse chercher la représentativité, on va vers un trop-plein de réalité. Est-ce que c'est vraiment le lieu, le théâtre, pour être à l'image de la société? Récemment, un essai d'Olivier Neveu contre le théâtre politique fustigeait cette idée-là, que le théâtre doit être réaliste. Le théâtre, disait-il, enfin me disait-il d'ailleurs, ça n'est pas le lieu du reportage, ça n'est pas le lieu de l'enquête sociologique. Donc comment est-ce qu'on fait à partir de là, quand les populations effectivement se détournent du théâtre, parce qu'elles ne s'y sentent pas représentées, comment est-ce qu'on fait pour les attirer, pour les intéresser?
Il y a en fait deux choses. D'abord, il y a une telle exaspération aujourd'hui qui est liée au fait que effectivement les Afro-descendants de France ont le sentiment de ne pas être convoqués dans la représentation de la vision de la population nationale. Enfin voilà, ils ne se retrouvent pas au théâtre parce qu'on ne les distribue pas. Donc dans un premier temps, il y a ce sentiment-là qui peut renvoyer effectivement à l'idée d'un naturalisme ou d'une réalité. Alors il y a un personnage noir, il faut convoquer un noir. Mais ce n'est pas ça l'enjeu véritable. L'enjeu, c'est de déshistoriciser, de décoloniser la représentation de l'image du noir, de créer une familiarité, d'arrêter de penser qu'on enferme le personnage dans une couleur. Est-ce que l'on sait quelle était la nature des cheveux d'Hamlet? Est-ce qu'on sait quelle était la nature du visage de tel ou tel personnage même historique? On ne le sait pas. Donc on n'a pas en fait à enfermer dans des représentations blanches et à ethniciser, à racialiser, à créer de l'étrangeté sur des visages qui sont un petit peu plus foncés ou un peu moins blancs. C'est là où est le problème.
Et donc est-ce que pour vous, il est légitime de poser cette question de racisme inconscient au théâtre ?
Ça n'est pas une question de racisme inconscient. De toute façon, le racisme, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. On peut tous avoir des pulsions racistes. C'est ça qui fait notre culture. Notre culture, c'est de construire une société dans laquelle, justement, on ne va pas stigmatiser l'autre. Or, je m'étonne énormément du fait qu'on n'arrive pas à comprendre, et c'est ce que dit Philippe Brunet, hein, qui est finalement très attendrissant dans sa naïveté, puisque, quelque part, il ne parvient pas à comprendre ce qui choque dans son comportement. Et c'est lié, c'est générationnel. C'est quelque chose qui est lié au fait que Philippe Brunet n'a sans doute pas grandi, comme grandissent les jeunes dans les banlieues, avec des jeunes qui sont issus de familles diverses, qui peuvent avoir des ascendances algériennes, des ascendances africaines, sénégalaises ou autres, asiatiques également, et du coup, qui ne regardent pas l'autre dans cette espèce d'altérité, ne sont pas sidérés par l'altérité.
Vous avez ce sentiment également, Jean-Robert Charrier ?
Je ne sais pas, après la question est très, très délicate, et puis surtout, je n'ai pas vu ce spectacle, mais j'ai quand même...
Vous êtes plus jeune que M. Brunet, en revanche.
Mais en revanche, j'ai quand même l'impression que toute la question là était de caricaturer les Noirs en l'occurrence. Mais ça n'est pas du tout ce qu'a fait Philippe Brunet, c'est surtout pas ce qu'il veut faire et à aucun moment ça n'a été la question. Donc à partir du moment où à aucun moment il y a une vague idée raciste dans le travail de Philippe Brunet, je trouve ça consternant qu'on l'interdise de jouer.
Il faut entendre le fait que les personnes qui ont donc réagi étaient offensées. Il faut entendre.
Mais pourquoi elles sont offensées ?
Eh bien justement, c'est parce qu'on n'enseigne pas les raisons pour lesquelles ce geste aujourd'hui est un geste qui n'est plus possible. Il y a des enjeux importants.
Alors on va passer à la deuxième partie du reportage de Cécile de Kervas II autour de la question comment le théâtre peut-il transgresser. Cécile, vous avez voulu interroger la place du réel dans le théâtre en vous inspirant d'une phrase du metteur en scène Romeo Castellucci.
Ben oui, selon le metteur en scène italien, considéré comme un blasphémateur par les intégristes catholiques, au théâtre, l'interdit serait aujourd'hui la réalité. Mais il rajoute... Et pourtant, le spectateur doit être secoué de tout son corps. J'ai donc tenté de le rencontrer, mais comme la plupart des grandes figures actuelles de la transgression au théâtre, eh bien, personne n'a voulu me rencontrer, sauf Jean-Michel Rabeux. Connu pour le scandale provoqué par son texte érotique « Éloge de la pornographie », le dramaturge et metteur en scène a décidé, cette année, de montrer dans son local de travail à Saint-Denis, en banlieue parisienne, un local presque caché des regards derrière une porte cochère, tout ce qui ne peut pas se montrer aujourd'hui ailleurs, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas se montrer ni au théâtre public, ni au théâtre privé. Local, c'est le nom de son lieu, et donc une utopie où le spectateur vient, et puis alors pour 5 ou 15 euros, selon sa bourse, il mange un plat et il voit une pièce de théâtre. Au mois de juin, le lieu accueillait Phèdre Brisure, une version réduite de la pièce de Jean Racine, jouée en vert donc, sous une lumière tamisée, presque sans décor ni accessoires, mais avec 4 comédiens intégralement nus. Le soir où j'y suis allée, il y avait une centaine de spectateurs, avec dans le public un groupe de naturistes, mais surtout beaucoup de jeunes étudiants.
Je voudrais vous dire un petit mot avant qu'on commence. Bon, merci. Je vous remercie d'avoir attendu. Deux, trois bricoles. La première bricole, banale, insupportable, c'est s'il vous plaît penser à éteindre vos téléphones portables. La deuxième bricole, tout aussi banale, c'est s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez penser à éteindre vos téléphones portables ? Et la troisième bricole, non, je ne vous fais pas trois fois. La dernière chose, c'est que comme vous le savez, les protagonistes sont nus, mais les comédiens ont l'interdiction absolue de toucher aux spectateurs.
Presque. Et l'inverse,
L'inverse, je compte sur vous, bien sûr.
Vous pouvez plus t'en douter de son malheur. Et ne connaissant plus ce héros qu'elle adore, elle voit Hippolyte et le demande encore, mais trop sûre à la fin qu'il est devant ses yeux. Par un triste regard, elle accuse les dieux.
Je suis Sandrine Nicolas, comédienne, et je joue actuellement dans Phèdre Brisure, mis en scène par Claude de Guillaume et Jean-Michel Rabeux. Pour moi, le lieu de la représentation, la scène, c'est aussi le lieu des transgressions. Et être nu sur scène, c'est pas vraiment une grosse transgression parce que c'est vraiment quelque chose d'un rapport à l'enfance par rapport à son corps. Et j'ai pas cette conscience que je suis nue quand je suis sur scène là. J'ai la conscience, j'ai mon costume. Si on me mettait une robe, là, je serais incapable de jouer ce que je viens de jouer ce soir, en fait. Pour n'importe quel travail, c'est-à-dire un travail, moi, en tant que comédienne, une fois que j'ai trouvé le costume de mon personnage, c'est-à-dire les chaussures, donc ça m'amène un corps particulier, une chemise cintrée ou une robe ample, enfin, je ne peux plus répéter avec autre chose, parce que ça amène une ligne singulière pour le corps, un rythme aussi, et comment dire, une sensation physique. Et là, c'était la même chose. Dès l'instant qu'on a commencé à répéter nu, Jean-Michel des fois nous disait « Rhabillez-vous là, parce qu'on va juste voir... » Et on disait « Non, on ne peut plus, parce que c'était notre costume. » Donc être nu, voilà, mais ce n'est pas une grosse transgression être nu. Je ne me sens pas mise à nu par le fait d'être nu sur scène. Il n'y a rien d'impudique. Mais la plus grande inquiétude pour moi, c'était les vers de Racine. Ce n'était pas être nu sur scène.
« Elle expire, Seigneur !»
Une action si noire que ne peut avec elle expirer la mémoire.
Alors, c'est un spectacle très intéressant qui affronte la fragilité des personnages de Racine par le biais de la nudité, qu'on accepte, qu'on accueille volontiers, mais qui permettent d'accroître la fragilité des personnages et de mettre l'accent sur la langue. Et il me semble que c'est vraiment ce travail sur le corps qui permet de magnifier la langue de Racine.
Je ne sais pas si ça magnifie le texte, parce qu'on ne peut pas oublier les corps non plus. C'est-à-dire que quand les corps ils interagissent, quand on les voit se rentrer dedans, se toucher, être en contact physique, je trouve ça plus fort que s'il y avait la barrière des vêtements. Et oui, je trouve ça plus impressionnant. Ouais.
En fait,
On est habitué à la nudité parce que il y a beaucoup de nudité dans notre société en tout cas, mais on est habitué à des corps assez aseptisés, des corps qui correspondent aux normes, très sexualisés aussi, et on n'est pas habitué à voir des corps juste nus, sans pose. Et du coup là, on perd très vite cette dimension de oh mon Dieu, ils sont nus. Parce que c'est normal, quoi. Ça va de soi très vite. En fait, on est habitué à ce que le corps nu ce soit porteur de toute cette symbolique sexuelle et de désir. Et là, non, juste, ils sont nus et ils jouent le texte. Bah, c'est pas le même regard, du coup, qu'on porte sur eux. Et enfin, moi, ça m'a presque donné envie de me mettre à poil et d'aller me balader à poil dans la rue.
L'utilisation du nu dans l'art est omniprésente depuis les débuts de l'humanité. Aujourd'hui, les nus sont institutionnalisés dans la peinture, la sculpture. Ils sont nombreux dans la danse, mais le théâtre fait exception. Interdit sur scène jusqu'au début du XXe siècle, le nu apparaît ça et là sur des scènes parisiennes, mais presque jamais en province, et beaucoup moins souvent qu'on ne le croit, considère le metteur en scène Jean-Michel Rabeu. Alors il vient de créer avec sa compagne, Claude de Guilliam, le festival Temps nu avec texte. L'objectif, très subversif, dit-il, est de mélanger les corps nus avec des grands textes du répertoire.
Le théâtre a un besoin impérieux de la chair, parce que c'est par la chair que l'âme transpire au théâtre. Parce que l'instrument, le magnifique Stradivarius, le violoncelle, la contrebasse, c'est le corps de l'acteur. Donc si on livre avec innocence, avec pudeur, avec délicatesse, avec paradoxe, avec âme, la chair de l'acteur, du même coup, on livre son âme. Je le pense profondément.
Est-ce que vous avez déjà, on vous a déjà taxé de pornographe ou de voyeur ?
Bien sûr, c'est la première chose qu'on dit. Négligemment, oui, il a envie de déshabiller les femmes. J'ai beaucoup d'autres moyens de déshabiller les femmes. Forcément, d'un revers de main, dès qu'on met en avant la présence de la chair, d'une manière ou d'une autre, d'un revers de main, le revers de main bien parisien, que je connais par cœur, d'un revers de main, on fait, quelle banalité. Je réponds, Bacon est très banal, Michel-Ange est très banal. Georges Bataille est très banal. Une femme qui accouche, jambes écartées, d'un corps nu, elle-même nue, elle est très banale aussi. Un cadavre qu'on lave, il est très banal. La nudité rappelle à certains qu'ils sont périssables, qu'ils sont mammifères, qu'ils sont animaux, et ils supportent pas, quoi. Et moi, je supporte difficilement les gens qui supportent pas les corps. Je les trouve dangereux. J'ai peur d'eux. Vraiment.
Pourtant, dans la société, le corps est montré en permanence. Enfin, je veux dire, une étude récente montrait qu'un enfant de 11 ans, 85% des enfants de 11 ans ont vu des images pornographiques.
Évidemment, évidemment. Il ne faut pas laisser le nu au marché. Pour l'instant, le nu appartient à la pornographie. La pornographie nous assomme. Mais elle est le signe d'une chose, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction des besoins de nos imaginaires d'Eros et froid de la mort. Ou nos cruautés, ce qui est la même chose. Justement, c'est évidemment là que le spectacle vivant se pose là. On ne va pas laisser les corps nus au pognon, quoi. Mais là, on fait Phèdre nu. Le plus difficile à faire accepter aux gens, ce n'est pas la nudité. Par contre, on sait bien, nous, qu'on joue un poème, on joue un lyrisme, on joue des monstruosités, on joue de l'excès, on joue en habitant le poème de la chair. Et ça, ça va contre. En ce moment, au théâtre, il faut parler comme à la télévision. Il faut parler comme au cinéma. Il faut jouer naturaliste. Il faut parler reportage. Il faut parler comme vous et moi. On parle comme ça. Je te dis que c'est comme ça. Mais non, mais c'est comme ça qu'on parle. Voilà, au théâtre. Et nous, on est... Songez que je vous parle une langue étrangère. On fait l'inverse. Et il y a plein de gens, mais qui n'ont tout simplement pas l'oreille préparée à ça. Le problème, c'est pas le nu. Le problème, c'est Racine. La transgression, elle n'est pas toujours où on croit.
Et la lune prend ton élan, accroche-toi aux arcs-en-ciel, et plus haut que les hirondelles, va rejoindre le firmament.
La transgression n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut arriver là où on ne l'attend pas. À Versailles, chaque année, le Festival du Mois Molière permet à près de 100 000 festivaliers de voir des spectacles gratuitement et en plein air. Alors depuis 17 ans, la metteuse en scène Stéphanie Tesson fait déambuler le public dans le potager du roi. Cette année, elle a choisi de monter les contes de Grimm, mais sans les édulcorer, et toujours dans une ambiance de folie douce.
Bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Enchantée.
Bienvenue.
On vous a prévenu de quoi?
Une bande de fous.
Une bande de fous. Combien de fous vous êtes?
On est beaucoup.
25, madame.
Vous êtes 25 fous,
ouais.
Là?
Oui, on est pas mal. En fait, c'est une déambulation, c'est un truc assez sympa, extraordinaire, j'adore. En fait, les gens viennent au potager du roi, par groupe, chacun a des comptes, et les gens déambulent dans le jardin et assistent voilà, à des comptes, et c'est assez, assez chouette. C'est le bonheur de mon année de faire ça. Ça fait 25 ans que je fais ce métier, même plus. Je préfère faire ça presque, le potager, que faire Hamlet ou Rublas, j'adore ça. Parce que c'est un rapport à l'enfance, c'est un rapport au conte. Le théâtre, j'en fais tout le temps, toute l'année. C'est sérieux, là, on est dans un... C'est l'enfance, c'est le conte. Voilà. C'est pas du théâtre, c'est de la vie, ce potager. C'est un cœur qui bat, c'est du plaisir. C'est une forme de transgression, puisqu'on n'est pas dans quelque chose de conventionnel. On est à fond comme des gosses, il n'y a plus de théâtre. On est juste des acteurs, c'est à moitié de l'impro. Les gens adorent ça, les gens ils n'ont pas besoin d'avoir des choses toujours extrêmement formatées, il faut de la vie. Donc la transgression c'est la vie, on est dans une vie où on nous dit comment se soigner, on nous obsède sur la fin de la vie, sur la mort, sur la maladie, on nous panique sur tout ce qui se passe dans le monde. Or on est tous mortels, or on va tous mourir, et voilà, et le potager, la transgression c'est ça, c'est dans la vie en fait. C'est bizarre de dire ça en 2019, c'est triste même de dire ça, mais c'est ça, c'est une forme de transgression, d'aimer la vie, de dire que tout va bien, d'être dans la joie, dans le plaisir, c'est ce qu'on retrouve ici, que j'adore. Et moi je joue le lièvre, voilà, j'ai un rôle de lièvre.
D'ailleurs, il faut que je mette mon... 1, 2, 3, partez.
Mais voilà!
Le lièvre couru 73 fois de suite!
Le hérisson soutient la lutte jusqu'à la fin!
À la 74e fois, le lièvre ne put achever. Au beau milieu du potager, il roula à terre, le sang lui sortait par le cou, et il expira! Sur place!
Bah, parfois, dans les contes de Grimm, il y a des histoires qui me font peur. Par exemple, quand je regarde avec des images Hansel et Gretel, bah, la sorcière, elle me fait peur.
Et là, ici, il y a des histoires qui t'en fait peur?
Non, rien du tout.
Même le lièvre qui meurt et tout?
Oh non, il est pas mort.
Moi, ça peut être particulièrement cruel. Enfin non, c'est des contes de la vie. Ça fait réfléchir. L'essentiel, c'est de faire réfléchir et puis après discuter peut-être avec eux. Ça interpelle peut-être, mais enfin, quand on voit la réaction des enfants, on n'a pas l'impression qu'ils soient apeurés ou effrayés. Je crois qu'au contraire.
C'est rigolo.
C'était rigolo, ouais. Mmh. Tu vois, t'as trouvé ça rigolo.
Moi, j'aimais tous les contes de Grimm rigolos.
Si donc vous êtes hérisson, ayez bien soin que votre femme soit hérisson. Et de même pour toutes les espèces.
Moi j'aime bien quand il y a une double lecture finalement, un double niveau de lecture. C'est-à-dire qu'il y a le conte en soi et puis des choses un peu plus piquantes. On n'a pas besoin d'être transgressif dans le sens choquer le bourgeois, vous voyez.
Je suis Stéphanie Tesson, je suis metteur en scène. Il y a chez Grimm une cruauté, quelque chose que quand on part de la civilisation judéo-chrétienne, on taxerait d'amoral. Mais après tout, encore une fois, tout est tellement subjectif dans le monde. Et il y a quelque chose qui, moi, m'a fait penser énormément à l'Antiquité, à Ovide, aux Métamorphoses, à cette façon dont les païens de la Grèce antique concevaient le monde à travers la mythologie. Il n'y a pas ni bien ni mal, il y a la loi de la nature, point. Et c'est la bonne parce que c'est la loi de la vie. Et ça fait un bien fou parce que ça célèbre l'instant, ça célèbre le vivant et ça célèbre la jouissance du plaisir d'être au monde, quoi.
Il y a beaucoup de parents qui pourraient dire « Ah mais non, mais il faut préserver les enfants de ce genre de choses, de cette cruauté. »
Ben, c'est pas un grand service qu'ils leur rendent parce que je pense que le jour où ils tomberont dans une toile d'araignée, ils ne sauront peut-être pas comment s'en sortir. C'est bien d'avoir accès à tout. À partir du moment où ça ne flatte pas les instincts pervers, ce qui est le cas, c'est très sain, Grimm, parce que c'est très vrai, parce qu'on revient à la nature. Aux sources et on sent. J'ai rien contre les hommes, hein, je ne suis pas un vieux misanthrope. Mais c'est vrai qu'on est quand même un peu pollué par tous ces clichés urbains de la civilisation. Moi, je sens beaucoup d'artifices. Quand j'arrive ici, j'ai l'impression que j'arrive et immédiatement je me retrouve nue au paradis. Il n'y a pas de mensonge ici, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de faux semblants.
Est-ce qu'on peut tout montrer?
J'espère. On peut tout montrer, bien sûr, et surtout l'invisible.
C'est quoi l'invisible?
C'est ce que la réalité ne laisse pas paraître et ce que le théâtre fait apparaître. Les présences spirituelles, tout ce qui n'est pas concret, tout ce qui n'est pas immédiatement perceptible avec les sens, ce qui est peut-être du ressort de la perception par l'âme, c'est le monde des poètes, le monde des songes, c'est le monde du rêve, c'est le monde du merveilleux, c'est les contes.
Ça, c'est subversif.
Je sais pas, c'est naturel. Ça veut rien dire, transgresser ou pas transgresser. Je crois qu'il faut qu'on oublie le point de vue de la masse ou de la démocratie ou du plus grand nombre comme seul repère ou point de départ. Moi, je fais du théâtre pour des yeux, pas pour une couleur de gens. Je fais du théâtre pour des âmes, je fais du théâtre pour des êtres humains. Je pense qu'il faut que chacun retrouve sa boussole intérieure et son ancrage intérieur pour savoir exactement où il doit aller. Et on sera peut-être étonné de voir que tout le monde va au même endroit, c'est-à-dire vers l'avenir, mais un avenir heureux.
La morale de cette histoire, c'est...
Primo, que nul, si important qu'il s'imagine être, ne doit s'aviser de rire aux dépens d'un plus petit.
Fût-ce un hérisson.
Bah, j'ai compris quelque chose là-dedans, c'est que faut pas trop demander, faut être content avec ce qu'on a. Parce que si tu demandes trop, et plus ça monte, et quand tu demandes trop, au bout d'un moment, hop. Et ça, je me le suis dit avant qu'il chante, à la fin de l'histoire, je me l'étais déjà dit. Ça, je crois que je vais le garder toute ma vie, parce que j'ai bien aimé cette histoire.
C'est ta petite chanson du dimanche, mon refrain d'Omicale. Avec toi, je me déhanche sur ce petit cœur.
Théâtre à la recherche de la transgression perdue, un reportage de Cécile de Kervas-Doué avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Donc ce que l'on comprend dans ce reportage, c'est que chacun a son idée de la transgression. Vous, Jean-Robert Charrier, pardon, quelle est votre idée de la transgression ?
Oh là là, c'est tellement vaste, mon Dieu.
Vous avez 4 heures.
Ouais, je veux bien en plus. Mais non, mais...
Est-ce que dans ce que vous avez entendu dans le reportage, il y a des choses qui font écho ou vous vous dites, ah non, c'est pas du tout ça
Non, mais
pour
ce
moi.
Qui est sûr, c'est qu'il y a autant de transgressions que d'êtres humains, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que ce que je vais trouver, moi, transgressif, vous allez trouver ça absolument normal et vice-versa. J'ai l'impression que c'est surtout pas la question qui doit nous habiter. J'ai l'impression qu'un metteur en scène ou un auteur transgressif n'a pas cette idée-là en se réveillant le matin. Et que la nudité, par exemple, puisqu'on en a beaucoup parlé, pour moi, n'a rien de transgressif.
Et pourquoi elle n'est pas plus présente alors sur les scènes
directeur de théâtre privé. Mais parce que pourquoi elle n'est pas plus présente? Bah, je sais pas, parce que justement, je crois que c'est plus une question. C'est-à-dire qu'on l'a tellement vu depuis, en l'occurrence, je sais pas, les années 60, et que on a tellement vu ça qu'on s'en fout un peu maintenant de la nudité.
Parce que ce que dit Jean-Michel Rabeu, il dit qu'il n'y a pas d'études là-dessus. Il a lancé un appel aux journalistes et aux sociologues et à tout ce que vous voulez pour faire une véritable étude, pour savoir à l'année combien il y a de nus sur les scènes du théâtre public ou privé d'ailleurs. Oui, et il dit, vous verrez que finalement, il n'y en a pas. Angelica Lidl, elle joue très peu en province et elle joue relativement peu ou pas longtemps à Paris.
Il dit aussi, Jean-Michel Rabeu, que la nudité est une chose absolument normale et qu'il n'y a rien de choquant dans la nudité. Mmh. Donc elle n'est pas transgressive. Mmh. La transgression, c'est d'aller contre une loi. Mmh. Alors, en l'occurrence, il n'y a pas de loi qui interdit à l'acteur de se mettre nu sur le plateau.
Alors, Sylvie Chalet, je crois que vous avez travaillé sur le nu au théâtre.
Bah, il faudrait que Jean-Michel Rabeu se rapproche en fait des universitaires et notamment de mes collègues donc Alexandra Morera et Pierre Letessier qui ont lancé un grand travail de recherche sur le nu sur les scènes contemporaines à la Sorbonne Nouvelle dans notre institut de recherche en études théâtrales. Donc nous travaillons sur ces questions-là et notamment sur la question donc du contemporain. Bien sûr qu'il y a une présence du nu depuis les années 70 dans la création contemporaine. Et je trouve d'ailleurs assez amusant de ramener le nu comme un élément de transgression, alors même que le même Jean-Michel Rabeu parlait tout à l'heure de la question donc de la représentation du noir et ne s'offusque pas, lui, du fait de couvrir un homme noir, un homme blanc de noir pour qu'il paraisse un noir. Donc c'est drôle quand même de vouloir déshabiller et en même temps de trouver normal de maquiller donc pour créer justement la présence donc afrodescendante.
Pourquoi est-ce que finalement cette question de la transgression, ça hérisse un peu? Ça, à chaque fois que j'ai posé la question, ça, Voilà, les réponses sont jamais directes, mais on sent que ça énerve en fait.
Mais parce que c'est pas une question. Je crois vraiment que c'est pas une question. C'est-à-dire que le transgressif, à mon avis, ne s'en rend pas compte et que on n'a pas envie de d'étiqueter un spectacle comme un transgressif parce que ça n'a pas lieu d'être. Parce que quand Castellucci fait son spectacle avec cet enfant sur la table là et qui pleure pendant des heures, il s'est pas dit tiens qu'est-ce que je vais faire pour choquer ce que dit une autre personne dans le reportage pour choquer le bourgeois. Il s'en fout complètement. Il a envie de parler d'un sujet. Il le développe comme il en a envie et c'est pas la transgression qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse c'est ce qu'il a envie de faire sur scène et pas autre chose.
Est-ce qu'il y a des choses quand même que le théâtre ne montre pas, ne montre jamais, à votre avis?
Le théâtre peut tout montrer. C'est une question de façon de montrer, comment il le montre. Et le théâtre, c'est pas seulement du visuel, c'est pas une pulsion scopique. C'est pour ça que aussi, quand Jean-Michel Rabe parle du texte et de l'émoi du texte, il y a quelque chose de très important dans cette dimension. Peut-être que lui-même le fait comme Monsieur Jourdain, inconsciemment, il essaie d'émettre quelque chose, mais la réalité du théâtre, c'est qu'en fait, il travaille à déplacer le spectateur, à toucher quelque chose en lui qui est absolument inaccessible. Et que peut-être d'ailleurs dans notre langage, on ne parvient pas à, exprimer. Très souvent, on s'aperçoit que des pièces qui sont effectivement très subversives, transgressives, qui déplacent, sont des pièces qui sont écrites par des auteurs dont la langue française n'était pas la langue maternelle. Par exemple, ce qu'arrive à toucher Beckett, les endroits de l'âme humaine qu'il arrive à toucher, ou des auteurs afropéens aujourd'hui hein, comme Kossi Efoui ou Kofi Kwaoulé touchent quelque chose la langue qu'ils utilisent, le français, n'est pas leur langue maternelle, mais alors peut-être arrive-t-il à toucher quelque chose par la poétique d'une langue qui est travaillée justement par un autre point de vue, un recul, une distanciation. Peut-être il touche à des endroits de l'âme humaines qui sont donc difficiles. Et très souvent, on accuse, on trouve que ces auteurs sont parfois violents. On dit que, mais le théâtre de Kwaoulé est un théâtre un peu violent. Kwaoulé ne montre pas spécialement de violence, de sang, de corps coupé en morceaux, pas du tout.
Mais justement, Cécile de Caravaz-Douy. Justement, l'un de mes interlocuteurs, c'était un jeune étudiant de la troupe des Modocos, de Philippe Brunet, me disait, finalement, moi, ce que je trouverais transgressif, ce serait de mettre des vers contemporains sur scène. Parce qu'on fait toujours jouer les poètes anciens, mais où est la poésie d'aujourd'hui? Il y a des poètes, il y a des dramaturges qui écrivent en vers. Pourquoi est-ce qu'ils n'écrivent pas? Et pourquoi ils ne sont pas donnés dans les théâtres? Jean-Bert Charrier?
Non, mais je sais pas, j'en sais rien. Je suis pas sûr que les poètes contemporains soient plus transgressifs que les poètes.
Non, mais la poésie. Lui, ce qu'il disait, c'est que la poésie pouvait être transgressive.
Évidemment que la poésie peut être transgressive, mais de toute façon, il n'y a pas de théâtre sans poésie. Le théâtre qui n'est pas poétique n'est pas du théâtre. Hein. C'est la poésie, c'est le théâtre. Le théâtre, c'est la poésie. Enfin, voilà. Donc. Et peut-être que malheureusement, l'absence de poésie dans beaucoup de productions aujourd'hui, peut-être que c'est ça la tristesse, et peut-être que ramener la poésie au théâtre, c'est peut-être ça la transgression.
Et est-ce qu'il y a une différence là-dessus entre théâtre privé et théâtre public ?
Il y a une énorme différence, parce que évidemment que le théâtre privé est moins libéré de cette question-là et se pose encore moins la question que le théâtre public et tellement dépendant de son activité financière qu'il a du mal à s'ouvrir à d'autres formes nouvelles, et que l'ouverture à des formes nouvelles, peut-être que là aussi c'est ça la transgression dans le théâtre privé, mais c'est difficile.
Moi, je pense que certaines actions du théâtre, justement, et parfois du théâtre privé, peuvent être vraiment transgressives par rapport à ce que peut faire le théâtre subventionné. Il suffit de regarder des expériences comme celle de la Chapelle du Verbe Incarné, qui ose, en Avignon, présenter justement des textes d'auteurs contemporains issus de cette diversité, comme on dit aujourd'hui, alors que le théâtre institutionnel, les grands théâtres publics n'y parviennent pas. Et comme par hasard, ce sont quand même des théâtres qui sont issus du privé, enfin qui fonctionnent en prenant des décisions
Là-dessus, il y a un changement, il y a un tournant sur ces questions-là. Est-ce que la dichotomie entre théâtre public, théâtre privé est en train de...
Non, mais il n'y a surtout pas de changement et on ne veut pas de changement. Enfin, c'est-à-dire que le théâtre public, c'est le théâtre public, le théâtre privé, c'est le théâtre privé. Il y a historiquement des affrontements et on ne s'entend pas forcément, mais c'est très bien. Enfin, on ne fait pas la même chose. En tout cas, on ne le fait pas de la même manière, on n'a pas la même mission. Et c'est très bien comme ça, on a personne là à résoudre ce conflit, on s'en fout. L'idée, c'est juste de faire du théâtre exigeant, que ce soit dans le théâtre privé ou dans le théâtre public, et on se fout de la guerre entre les deux.
Et est-ce que la diversité est suffisamment préservée aujourd'hui? On a vraiment accès à des théâtres de toutes sortes?
J'ai l'impression, enfin moi je vais au théâtre tous les soirs, que ce soit dans le public ou dans le privé, et la diversité, elle est immense.
La diversité des offres, elle est importante. Mais la diversité à l'intérieur de la diversité, c'est plus complexe.
Merci beaucoup Sylvie Chalet, merci Jean-Robert Charrier. Théâtre à la recherche de la transgression perdue, le grand reportage de cette semaine était signé Cécile de Carvaz-Doué. Réalisation Annie Bro avec Jean-Frédéric à la technique. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.